problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui le savent. Et en même temps, c'est normal, parce que ça suppose de comparer les frontières nationales. Donc, bien sûr, je maintiens, c'est pas un problème. C'est intéressant. Le point de départ de la micro-recherche qu'on a faite au labo, c'était Google Maps est de plus en plus utilisé comme référence. Et donc, à partir du moment où il y a une référence, on compare les termes, etc. Et là, on s'est aperçu, mais on n'est pas les premiers, hein. Il y a d'autres chercheurs américains, français, Jérôme Staub notamment, qui s'étaient aperçus de ça. C'est qu'en fait, les tracés frontaliers des États sont adaptés à l État commanditaire. Et donc, c'est une vraie malhonnêteté intellectuelle, politique, cartographique et diplomatique.
Et depuis quand ?
Depuis le point de départ. Depuis la conquête des marchés. C'est-à-dire que si Google veut conquérir le marché chinois, d'accord ? Ce qui n'est pas encore fait. Quand vous arrivez à Pékin, à Hangzhou, à Shanghai, vous voulez vous connecter dans votre hôtel, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, hein, vous êtes obligé de passer par un VPN. Et donc Google n'est pas encore ouvert totalement au marché chinois. Donc s'il veut conquérir le marché chinois, il ne peut pas montrer les frontières du pays qui ne correspondent pas à la vision nationale. Et la vision nationale, c'est de dire la Chine est en litige avec l'Inde sur le glacier du Tianjin, par exemple, sur la zone du Cachemire. L'Inde prétend que la frontière s'arrête là, le Pakistan elle s'arrête là, et la Chine. Et donc la Chine va montrer des frontières qui correspondent au discours national. Donc, Google Maps adapte sa frontière à ce que souhaite le régime chinois, le récit national chinois. Et donc, ça ne se conforme pas, si vous voulez, aux accords internationaux signés par la Chine dans le cadre de négociations aux Nations Unies.
Vous avez eu une réaction de Google, directement ou indirectement ?
Ça va venir.
Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas eu trace de ça ?
Écoutez, ça va, on est le 26 décembre. C'est la trêve des confiseurs, ça viendra ou ça viendra pas, mais cela dit, peu importe, ça se plaide. Vous savez, il suffit de regarder les tracés frontaliers, ce qui est signé, ce qui n'est pas signé, et de comparer. Mais pareil, si vous comparez par exemple les cartes proposées par la Chine avec les cartes proposées par le Japon, ce ne sont pas les mêmes frontières maritimes. Si vous êtes à Moscou et que vous regardez Google Maps, vous voyez que la Crimée est russe. Maintenant, si vous êtes à Bruxelles, dans l'Union européenne, ou si vous êtes à Kiev, vous voyez que la Crimée n'est pas russe. Et donc, si la direction de Google s'y oppose, elle n'a pas le marché. Alors, vous me direz, le marché ukrainien, ce n'est pas très grave. Mais le marché russe, et surtout le marché chinois, indien ou autre, c'est plus important. Donc, le marché avant la réalité cartographique et géopolitique.
Vous parlez de référence, c'est un mot-clé évidemment, et vous parlez de la référence des cartes des Nations Unies. La référence, ce qui fait autorité, ce sont les cartes des Nations Unies ?
Ben oui, dans la mesure où vous avez en gros 198 États qui sont signataires de la Charte des Nations Unies, qui ont estimé, quoi qu'on pense des Nations Unies, que c'était le moins mauvais outil pour se retrouver, pour parler, pour négocier, pour résoudre un litige. Et donc, les Nations Unies publient depuis 1946 des cartes qui font référence. C'est-à-dire, vous êtes en conflit entre l'Inde et le Pakistan, sur le Cachemire, vous arrivez à la table de négociation et vous avez une carte sur laquelle, en gros, on est d'accord. Le Pakistan propose un autre tracé du Cachemire, l'Inde propose un autre tracé, mais au moins vous avez un outil de référence. Or, le problème, c'est que Google Maps, qui est un bel outil, franchement, non seulement c'est beau, mais en gros c'est utile, hein, c'est utile, devient une référence parce que c'est d'un accès évidemment beaucoup plus facile que les cartes des Nations Unies, c'est logique. Le problème, c'est que c'est faux. Le problème, c'est que c'est faux. Et ça peut entraîner des problématiques, voire des problèmes qui ne sont pas négligeables. Prenez le cas du Sahara occidental, c'est-à-dire au sud-ouest du Maroc. Il n'y a qu'un pays qui reconnaît le Sahara occidental comme étant marocain, c'est le Maroc. Et donc, ce qui est produit comme carte par Google pour le Maroc, c'est évidemment l'intégration du Sahara occidental à l'État marocain. Mais ailleurs, non. Et donc, si ça n'avait pas référence, si ça n'avait pas eu succès numérique, commercial, et même comme dire, d'utilisation, parce que c'est une vraie réussite, hein, nous on l'utilise aussi, ce ne serait pas bien grave. Sauf que là, c'est un substitut aux outils juridiques internationaux. C'est ça qui m'avait un petit peu alerté et que je voulais... C'est pas une dénonciation de ma part, simplement on travaille beaucoup sur les problèmes politiques, géopolitiques, cartographiques, et je l'ai mentionné parce que c'est une source de problème. Vous imaginez un petit peu entre Israël et les négociateurs palestiniens, ce que ça peut donner ?
Et vous dites un substitut, ça veut dire que pour vous aujourd'hui, Google fait fi des Nations Unies, bafoue la géopolitique, la carte du monde telle qu'elle est ?
Mais ils bafouent rien du tout, ils s'en foutent. C'est pas leur problème de bafouer, etc. Leur problème, c'est d'accéder à des marchés. Et ils y arrivent très très bien, la preuve. Très très bien. Donc oui, ils font fi des Nations Unies. C'est pas leur problème. Leur problème, si vous voulez, c'est d'avoir trouvé le système excellent de maillage de photosatellites, appliqué à la MapMonde, et d'y appliquer des frontières. Maintenant, on fait changer les frontières en fonction, je me répète, du récit national de chaque pays. Alors, il y a des pays qui n'ont pas de problème. Il y a des vieux États comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, il n'y a pas de litige. Alors, en gros, on a les mêmes frontières. En revanche, comme je vous le disais, c'est pas vrai pour la Russie, pour la Chine, pour l'Inde, etc. Donc oui, ils font fi des Nations Unies. Alors est-ce qu'on peut employer le terme bafoué ? C'est un terme moral. C'est pas sur ce plan-là que je me place, si vous voulez. Je dis simplement, attention, en termes d'outils, extrêmement, comment dit-on, bien vulgarisés, pédagogisés. Et de fait, c'est un superbe outil. Ça ne peut pas servir de référence parce que ça ne fait qu'affaiblir les outils juridiques internationaux qui, à mon avis, ont plutôt besoin d'être renforcés et non pas affaiblir. Mais ce n'est pas le problème de Google.
Mais les frontières, par définition presque, elles sont toujours mouvantes. Votre accusation, c'est que finalement, Google ne tient pas compte, comme les Nations Unies, de mouvements qui ont été actés je sais pas, par les États, par des traités.
Alors d'abord, c'est pas une accusation.
Quand vous dites qu'ils mentent...
C'est une accusation, tu es un menteur, oui, on peut dire une accusation. Non, j'appelle simplement les gens à faire ce constat. Et donc, a eu l'accusation, bafouée, c'est un terme qui est quasiment moral, qui n'est pas dans mon analyse. Donc, je comprends très bien que vous l'utilisiez, mais c'est pas dans mon vocabulaire.
Il joue avec la réalité, c'est ça, plus pour vous.
Mais voilà. Mais surtout, il joue avec la réalité cartographique juridiquement reconnue. Mais vous savez, une frontière, quand vous regardez les frontières entre Israël et le Liban au moment où a été restituée la bande nord, la frontière de la bande de Gaza, ce sont des choses éminemment sensibles où on négocie, mais pas mètre par mètre, mais centimètre par centimètre. Et il faut des cartes pour ça. Et donc c'est très important pour chaque État. Et donc c'est très important d'avoir des frontières stables. Et une fois qu'elles sont stables, on peut négocier.
Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Vous souhaiteriez par exemple qu'il y ait, je ne sais pas, un partenariat entre Google Maps et les Nations Unies pour que les cartes soient bien labellisées en quelque sorte ?
Écoutez, la réponse est un peu contenue dans votre question. Je pense que ce type de partenariat serait préférable pour les négociations actuelles et futures sur des questions, des domaines qui sont éminemment sensibles. Maintenant, est-ce que c'est le problème de Google ? Google est beaucoup plus utilisé que les cartes des Nations Unies. Vous voyez ? Donc oui, je pense qu'un partenariat serait tout à fait souhaitable. C'est-à-dire que vous avez effectivement les gens des Nations Unies qui disent « Attention, vous nous emmenez vers des problèmes. » Mais si, je vous donne un exemple, si Google Maps applique la carte des Nations Unies au litige frontalier entre le Japon et la Chine, Google n'aura pas accès au marché chinois. Parce que la Chine veut montrer à ses internautes qu'il y a soit un litige, soit il n'y en a pas, soit il est en faveur de la Chine concernant les Paracels, les Senkaku, tous ces problèmes de litige qu'il y a en mer de Chine méridionale et qui posent pas mal de problèmes d'ailleurs. Et donc, si je peux prendre une expression un peu vulgaire, c'est pas le problème de Google. Le problème de Google, c'est le marché chinois. C'est pas de trouver un partenariat avec qui dit le droit international sur le tracé des frontières.
Et finalement, le problème pour vous, c'est notre prise de conscience par rapport à cet outil.
C'est rien de plus que ça, c'est déjà pas mal, mais c'est rien de plus que ça. Nous, on passe notre temps à travailler sur des cartes de géographie, géographie politique, géographie économique, géographie humaine, géographie des migrations. Forcément, ça fait apparaître plein de choses qui sont des réalités politiques, militaires, tout à fait passionnantes. Et donc, quand on a vu ça, je répète, je suis pas le premier, hein, il y a des Américains qui ont travaillé là-dessus il y a 2-3 ans, il y a des chercheurs. Et donc, ce que je dis simplement, de même que la captation des données et leur utilisation à des fins de transformer toute chose en produit, de même sur le plan cartographique, politique, les géopolitiques dont des tensions déjà actuelles qui sont nombreuses hein, et à venir méritent qu'on ait des outils cartographiques, des outils de lecture identiques. Hein, quand vous lisez un bouquin, quelle que soit la traduction, vous avez en gros le même texte. Quand vous avez un pianiste russe et un pianiste britannique qui jouent un quatuor de Schubert, ils ont la même partition. Et là, je trouve qu'on s'écarte de la même partition. C'est simplement cette lecture-là que je fais.
Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, on atteint un point critique et que Google a finalement trop de pouvoir en la matière, sachant que les cartes, c'est de la stratégie, de l'économie, du militaire, enfin que c'est vraiment beaucoup de poids, de pouvoir.
Oui, beaucoup de poids et de pouvoir, oui. Oui, c'est tout à fait ça, la carte. On ne mesure pas parce que à la fois c'est un outil quotidien, un outil mal connu, c'est un outil absolument passionnant, et puis même un outil esthétique. Vous avez des cartes actuelles et des cartes anciennes qui sont vraiment des merveilles. Et donc, je ne sais pas si on atteint un point critique. Je dis simplement, vous ne laissez pas berner, quoi. Vous ne laissez pas berner, vous ne laissez pas prendre pour des cons, parce que là, ce sont des outils qui sont extrêmement sensibles. Et donc voilà, le point critique, j'en sais rien, c'est un peu radical. Mais c'est utile de mesurer ce qu'on ne peut pas toujours mesurer. Et je pense que les modestes chercheurs en relations internationales que nous sommes, au VEPAC et qui publient des bouquins, etc., c'est, mais je ne suis pas le premier, je répète, c'est de dire, bon ben voilà, y a ça ne, à mon avis, ça ne convient pas pour le fonctionnement des régimes internationaux que nous connaissons.
Et ne pas se laisser berner, ça veut dire utiliser quoi du coup ?
Alors c'est la très bonne question, si je peux me permettre. C'est-à-dire que l'alternative à ça, c'était pour avoir les cartes exactes, on a les cartes des Nations Unies. Vous en avez d'autres. Hein. Nous, on prend comme référence les cartes officielles du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangères. Et on s'en sert. Hein. Quand il y a un litige, on se dit, au fond, que dit la France ? On s'appuie là-dessus pour pas s'engager dans des litiges, dans des zones très compliquées comme le Caucase, entre le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Là, pour le coup, on a un outil de référence. Mais sinon, l'alternative, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. En posant la question, vous démontrez même la faiblesse du raisonnement. Mais ça n'a pas d'importance, mais vous démontrez la faiblesse du raisonnement. C'est-à-dire que Google Maps, je répète, est beaucoup plus accessible, et en plus gratuitement, et en plus avec une esthétique, que les cartes des Nations Unies. Mais cela dit, ça dépend quel niveau de recherche. Peut-être qu'on n'a pas tous besoin, en regardant Google Maps, le fait de savoir à quel endroit se place le tracé frontalier entre l'Inde et la Chine au niveau du Cachemire. Après tout, ça concerne pas tout le monde. Mais tout de même, il faut le savoir. C'est une façon, comment dire, pour dire les choses un peu prétentieusement, c'est une façon d'élever le niveau général de connaissances cartographiques et donc le statut des États. Les choses sont plus fragiles qu'il y a 10-15 ans, vous savez, sur le plan international. Et donc là, je trouve que renforçons les choses plutôt que de les fragiliser.
Et justement, du côté du Quai d'Orsay, vous évoquez le Quai d'Orsay, où au sommet de l'État, on se préoccupe de ça, du fait que un énorme groupe américain ait ces données-là, cette maîtrise-là.
Alors, en toute honnêteté, un, je ne sais pas. Deux, sûrement. Un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux vous répondre dans quelques jours, si vous voulez. Mais et deux, sûrement. Sûrement. Et pas seulement le Quai d'Orsay français. Hein.
Oui, j'allais vous demander le ministère de la Défense aussi, par exemple.
Mais bien entendu, le ministère de la Défense aussi. Quand vous êtes dans des zones, ce qu'on appelle les zones molles, comme au Mali, on ne peut pas trop jouer avec les frontières. En plus, elles sont rendues compliquées avec le nomadisme, bien entendu, puisque le tracé des frontières, après tout, date de, allez, on va dire, le traité de Berlin de 1885. Et puis les traités de 1962, de la décolonisation. Mais il est évident que pour les quelques grandes puissances économiques et militaires, il est tout à fait important d'avoir des frontières de référence. Pas forcément stables, mais des frontières de référence. Et ça ne fera qu'augmenter, si vous voulez. Parce que, en plus, vous avez, et tant mieux, un certain nombre de pays émergents, qui, à mon avis, sont des pays émergés, qui réclament une réforme des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui, plus ils avanceront, plus ils le réclameront, et plus ce sera légitime. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir des frontières troubles, hein, des tracés frontaliers troubles. Donc, c'est une question extrêmement, j'allais dire vulgairement, jouissive intellectuellement et importante politiquement.
On parlait d'alternatives. Une initiative comme le partenariat entre l'IGN et OpenStreetMap, ça vous semble dérisoire finalement par rapport à Google Maps?
Non, franchement, ça me semble pas dérisoire du tout, parce que l'IGN est une grosse machine, une grosse institution, extrêmement fiable. On a souvent travaillé avec eux, et toujours avec intérêt et avec plaisir, d'une part. Et d'autre part, la technique d'OpenStreetMap, finalement, est plus réactive que les outils de l'IGN ou même les agents de l'IGN sur le terrain. Et donc, une alliance de ce type-là, moi, me semble très intéressante. Vous savez, au moment des séismes, par exemple, vous avez plein de gens qui sont sur le terrain, souvent des humanitaires, qui manient très bien l'outil numérique, qui manient très bien OpenStreetMap et qui fournissent énormément d'informations cartographiques, c'est-à-dire de géolocalisation, pour envoyer des secours, ou plutôt cartographier la zone, vous voyez, ne serait-ce que de dire 24 heures après le séisme que le pont est écroulé, c'est très très précieux. Et donc s'il y a une alliance entre deux types d'outils, ça peut être parfaitement complémentaire. Alors je ne sais pas si ça amoindrit, modère la gravité du problème que je soulève, mais en tout cas ça ne peut aller à mon avis que dans le bon sens, oui.
C'est aussi une façon de préserver le service public de la cartographie, qu'on ait cette alliance entre une institution publique et les particuliers, les citoyens, et de ne pas être dans une logique de privatisation.
Écoutez, je crois que le terme est imposé, effectivement. Mais cela dit, on peut être privatisé et honnête intellectuellement. Hein. Vous pouvez avoir des outils de cartographie qui sont privés, privatifs, et qui ne se comportent pas de la même manière. C'est-à-dire en n'étant pas obsédé par l'accès au marché, parce que Google, de toute façon, je vous le rappelle, ils vendent quand même autre chose que de la carte. Et donc, même si on ne peut pas rester à un service cartographique qui soit uniquement public, on ne peut pas non plus s'en passer. Parce que les facultés d'arbitrage, dans ces cas-là, sont quand même mieux respectées quand on est dans un outil, une institution nationale ou internationale, que dans une boîte privée, aussi grosse soit-elle et aussi multiforme soit-elle.
Et est-ce que ça veut dire, ultime question pour vous, qu'il y a forcément une dégradation de la cartographie actuelle?
Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait une dégradation de l'outil cartographique, du service cartographique. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Pas une espèce, je trouve qu'il y a une réalité de la remontée de cet outil. En particulier, ça va vous paraître étrange, en particulier depuis la chute du mur, même si ça paraît 25 ans, c'est lointain, parce que la géographie est redevenue un outil tout à fait opérationnel. Donc je ne pense pas du tout qu'il y ait une dégradation de ce service. Simplement, service, il y a service, un service public, un service national, un service public, et comme service privé, on n'est pas obligé d'être malhonnête intellectuellement avec un service privé. En revanche, les moyens d'une boîte comme Google ne sont pas les moyens de l'IGN, et ne sont même pas les moyens du service cartographie de Library of Congress à Washington. Et donc là, on compare des échelles qui sont difficiles à comparer. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une dégradation. Au contraire.